Bonjour et bienvenue au 1A Club, le podcast BD bimensuel qui enterre Akira. Ouais!
La foule est en délire. Enfin, le projet était peut-être abandonné.
Mais nous nous en reparlerons tout de suite.
Avec Merton.
Bienvenue, je suis Wanei Pied. Je suis accompagné de mon fidèle compagnon.
Sidekick, Tio, c'est moi.
Voilà. Et nous allons, comme tous les 15 jours, vous parler bande dessinée. On va pouvoir enchaîner de suite. Nous allons accueillir notre ami Merton, qui va nous parler de différentes news.
C'est les news.
Bonjour Merton.
Salut.
Hello.
Bonne année tout le monde.
Wouh. Ouais, encore plein de sujets super énormes pour cette année qui démarre en folie. On se prépare un super festival d'Angoulême de malades. Nous allons voir les plus grands fights d'auteurs de BD du monde, des combats de catch à moustache, comme ils en ont la coutume à ce que j'ai entendu dire. Je me fais des films sur Angoulême, je pense que je vais être très surpris de ce que je vais voir.
Je pense aussi.
Bah, on va commencer par quelques news rapides. Je vous rappelle que les OEC Awards sont toujours en ligne, vous pouvez voter. On a des trucs super tendancieux, il y a un peu du fight dans certaines catégories, bon il y en a certaines, il n'y a aucun doute, franchement à moins d'un miracle ça changera pas d'ici la fin, mais alors il y en a certaines, le combat est rude, genre par exemple il y a un combat actuellement entre Blast et 3 secondes.
Ah ouais,
tu vois,
hein.
Ouais, qui n'ont rien à voir, mais bon, pour toute la BD qui fait réfléchir. Bref, beaucoup de choses très intéressantes. Allez voter pour les 1A Club Awards. C'est complètement débile, hein, rassurez-vous. Mais il y a des catégories rigolotes. J'ai bien aimé les deux qui ont voté pour Une vie sans Internet pour la BD qui fait peur. Pour la BD qui fait peur.
Pourquoi elle fait peur?
En gros, j'ai mis une rubrique sur les
ouais,
trucs.
Ouais, j'ai vu, le prix sueur. La BD qui fait
voilà,
peur.
Voilà, et j'avais mis une vie sans internet parce que je trouvais ça rigolo en fait.
Ouais, c'est et que t'as deux, des vrais geeks en fait qui sont chez toi, c'est ça.
Voilà, et il y en a deux qui ont voté une vie sans internet parce qu'ils ont trouvé ça rigolo aussi. J'ai tenté de faire de la news d'investigation, de devenir un vrai reporter de malade. Je me suis fait offrir le DVD du Visiteur du Futur, super bonne série, soit dit en passant. Et dedans, ce DVD, il y avait un petit flyer, c'est édité chez Ankama, vous voyez, genre un éditeur qui ne fait pas de BD du tout. Hein.
C'est pas son style, non.
Voilà, il y avait une superbe image en gros plan d'un dessin du Visiteur du Futur, avec écrit « Bientôt ». Et là, j'ai fait « se pourrait-il qu'il y ait une bande dessinée, Le Visiteur du Futur, qui arrive bientôt ?» Et là, je vois la petite signature du dessinateur, dont le style m'était vaguement familier, et je reconnais le style de Gauche, qui avait dessiné, justement, pour Vendry, le psychanalyse des héros de manga. Si je me souviens bien, c'était celui-là qu'il avait dessiné. Et dont j'adore le dessin, parce qu'il est très très fort. Voilà. Il partage un amour avec Bastien Vivès au niveau de certains attraits féminins.
Les oreilles.
Ouais, les oreilles.
Et les mains, ouais.
Ouais, c'est tout à fait ça. Et donc, j'ai tenté de lui envoyer un mail super flatteur pour essayer de voir si j'arrivais à lui soutirer quelques informations. Voilà, mon journalisme d'investigation s'arrêtait là, je n'ai aucune nouvelle. Mais de là à imaginer que peut-être qu'on va avoir une BD Visiteur du Futur, peut-être dessinée par Gauche, ce qui serait génial parce qu'il a un style assez exceptionnel. Voilà.
Alors par contre, j'ai pas cru le voir dans les sorties Ankama 2012. Désolé de briser tes rêves, mais ça me dit rien.
Peut-être une surprise qu'ils vont annoncer à Angoulême ou un truc dans le genre.
Peut-être.
Tu sais, ils vont essayer de faire du buzz sur Internet.
Ah bah oui.
Voilà,
le buzz sur l'Internet. Hein, c'est...
Voilà, hein. Surtout qu'avec le Visiteur du Futur, ça peut très très bien fonctionner parce qu'il y a une belle communauté de fans. On enchaîne avec un article très sympathique de quelqu'un qui a fait le vrai test de la bande dessinée numérique.
Ouais, alors ça, enfin là, il y allait jusqu'au bout. Hein. C'est vraiment un article vachement bien fait. On a à peu près tous les acteurs. Bon, là, il y en a qui arrivent encore un peu sur le marché. Mais
les non-acteurs aussi.
Pardon ?
Les non-acteurs aussi, parce que
oui,
ils te parlent aussi bien des moyens légaux que des moyens illégaux de lire de la BD en numérique.
C'est ça. Oui, mais enfin, là, il dit quelque chose de très intéressant d'ailleurs sur ces moyens illégaux, c'est que c'est encore vraiment grave le bordel et que c'est très compliqué d'aller chercher des BD comme ça, enfin, de pirater de la BD, quoi. Et ça, on s'en rend compte. À part le manga où il y a des trucs qui sont un peu plus structurés, ouais. Voilà, structurés, ouais. Organisés, mais pour la BD franco-belge, c'est même pas la peine. Et même pour les comics, c'est vraiment super chaud à trouver, quoi.
Le comics, on peut s'en sortir pour les gros titres, apparemment.
Oui, voilà, pour les gros titres, c'est ça.
Bah surtout, je pense que la franco-belge, parce que le manga, c'est souvent quand même du scanné. Et la franco-belge, je pense que pour scanner, c'est le format qui doit des fois pas être pratique. En fait.
Ça, est pas con, pas pensé. Bah ouais, parce que c'est vrai que le beau grand format, tu sais, le format Delcourt, vachement grand en franco-belge, il rentre pas dans un scanner A4. Hein.
Ah bah non, c'est juste au-dessus du ouais. A4, en fait.
Rien que pour faire chier.
Ils ont tout. Ah oui, oui. Ils sont pas cons, ces éditeurs. Hein.
Putain, pourtant, ça fait longtemps qu'ils ont ce format-là. Ils avaient déjà prévu à l'avance.
C'est ça. Non, ils avaient vu ça il y a des dizaines d'années.
Enfin, moi, j'ai trouvé le rapport très intéressant parce que le mec a pas hésité à quand même... Il parle du piratage, mais il a quand même pas hésité à lâcher des sous dedans. Par exemple, il disait qu'il avait mis 100 euros dans Isneo pour le tester. Donc, il y allait à donf. Hein. Et il explique tous les avantages et inconvénients de ces plateformes à l'heure actuelle. Je trouve ça super sympa si vous voulez faire une idée de bah en fait on n'est pas prêt quoi.
Non, on est loin d'être prêt. Hein. Ça, je pense qu'on le sait. Enfin voilà, je pense qu'on a tous un peu testé, un peu regardé, peut-être pas en dépensant autant d'argent que ce monsieur, mais on est encore grave à la bourre quoi. Et quand il fait la comparaison entre ce que fait Isneo et ce que fait la Marvel par exemple, bon on voit qu'on a quand même quelques années de retard un peu. Hein.
Bah moi ce que j'ai trouvé sympathique par contre, c'est qu'il était d'un point de vue du modèle économique en tout cas très élogieux sur celui des autres gens.
Ah mais ça on est d'accord, hein. C'est ce qui se fait de mieux en BD numérique en ce moment. Hein.
Voilà, ce qui est quand même assez, je trouve, étonnant parce que les autres genres, bon moi j'aime bien, mais c'est quand même un genre très particulier. Faut accrocher au genre novella quoi. Hein.
C'est ça. Enfin, moi je trouve que le problème c'est justement, enfin c'est une histoire, une seule BD, mais c'est la seule qui tient la route aujourd'hui en termes de numérique. Et ça pose quand même quelques questions parce que. Enfin, Isneo, j'étais tout à fait d'accord avec lui, c'est vraiment mais un bordel sans nom pour s'y retrouver dès que tu as un peu de BD dessus. On n'est pas du tout prêt à ça. Et pourtant, les éditeurs, ils essayent, ils y vont. Quoi. On sent qu'il y a de plus en plus de choses qui se font. Et je pense qu'ils n'ont toujours pas tout à fait bien compris, je pense, ce qu'attendent les lecteurs en termes ne serait-ce que d'interface, de comment aller chercher ses BD et tout ça. Quoi. Ils restent dans un vieux schéma et c'est un peu triste quoi.
Là après il y a des nouveaux acteurs qui sont en train de se mettre en place, qui essayent de nouvelles choses, donc il y a la plateforme Esprit BD qui va arriver. Je sais pas exactement à quoi ça va correspondre, ils font beaucoup parler d'eux parce qu'apparemment ils s'amusent à faire gagner des passes pour Angoulême à tous les sites du monde.
C'est ça. Non mais en fait Esprit BD ça c'est fait avec la Caisse d'Épargne et le festival d'Angoulême et c'est plutôt l'esprit du pavillon jeune talent en fait. Donc en gros, ils vont permettre à des jeunes auteurs de pouvoir être vus et ça se veut une plateforme la plus large possible de diffusion pour les jeunes auteurs. Donc on va pas encore être là, on est vraiment dans l'idée internet comme révélation et ensuite vous aurez du vrai papier quoi.
Ça m'a l'air quand même vachement à la mode. Ça, franchement, entre Manolo Sanctis qui se relance là-dedans, MMCBD, etc. En gros, ils veulent choper que des jeunes auteurs. Les vieux vont mourir de faim.
Mais c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'on reste dans ce vieux schéma que Internet, c'est pour se faire connaître et quand on est connu, on fait de la vraie BD papier. Quoi. Et on... Il n'y a pas de gros acteurs qui se disent aujourd'hui la BD, ça peut être sur Internet, on peut faire d'autres choses sur Internet. Et il n'y a personne qui mène cette réflexion aujourd'hui, ou alors en tout cas, pas de gros acteurs.
En tout cas, si j'ai bien compris, le groupe Aquafadas, qui est aussi derrière Esprit BD, qui est derrière AV Comics, qui est une appli de lecture de BD en ligne.
Alors, Aquafadas, c'est vraiment juste la boîte qui fait les technos, en fait. Hein.
Ouais,
c'est...
les technos. Ouais. En gros, eux, ce qu'ils proposent, c'est de lire de la BD non homothétique, c'est-à-dire qui ne ressemble pas à la planche elle-même, c'est-à-dire avec des animations entre les... Tu peux lire du case à case avec animation entre les planches, etc. Ils ont mis en ligne, et j'ai trouvé ça super intéressant, gratuitement, leur outil d'adaptation d'une planche classique en planche numérique, case à case, avec animation, etc.
Ouais, mais après, faut voir, parce que le problème que j'ai vu avec ça, c'est que on en arrive à peut-être un peu trop d'effets, un peu trop de choses. Enfin, c'est un peu ce qui se passe parfois sur AV Comics, et ça aide pas toujours forcément la lecture non plus, quoi.
Je suis assez d'accord. Les effets dans la bande dessinée, à part ce que j'ai pu voir dans les tests de Balak et Malek dans le Turbo Media, j'ai pas trouvé trop d'intérêt à ça.
Bah, les animes Marvel sont vraiment pas mal. Enfin, mais on reste dans du très classique, quoi. C'est pas
faut voir aussi le temps qu'il leur faut, parce qu'ils refont faire des dessins en plus pour les illustrateurs.
Voilà, c'est ça.
Et c'est un travail de malade pour le dessinateur en plus de la BD, quoi.
Oui, mais là, on est dans quelque chose où le numérique apporte une plus-value. On n'est plus dans juste on scanne la BD et on la met en ligne. Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment. Enfin, voilà. Moi, j'ai l'impression que bah, soit on met les planches en ligne pour que le jeune auteur se fasse connaître, c'est Manolo, c'est MMC BD, c'est Esprit BD, ça va être un peu ça aussi. Soit juste on fait un scan de la BD et on la met en ligne sur Isneo, on n'est pas encore du tout dans un modèle où le numérique apporte quelque chose au lecteur, et je crois qu'ils ont un peu du mal à comprendre ça, ils restent un peu dans des vieilles logiques et c'est un peu triste.
Thio, tu es dubitatif.
Mais tu connais mon rejet en fait du numérique pour l'instant, donc
c'est vrai.
Le format papier pour moi, voilà, le livre, ça reste un livre. Je bien que je peux même pas lire les trucs sur le online que tu fais, donc je pense pour l'instant je suis vraiment trop hermétique à ça. Pour moi, un bouquin, une BD, ça reste un format livre. Il faut que je le touche, quoi. Voilà.
Mais il y a des choses, tu vois, qui sont à la frontière. Moi, je pense à Jean-Paul Pognon. Votez pour lui pour la révélation blog.
Fescam.
qui a fait c'est surtout, il a intégré le GIF animé dans ses BD, en fait. C'est lui qui a lancé cette mode-là. Et déjà, ça change un peu, tu vois. Enfin, on est dans quelque chose d'un peu différent. Bon, on n'en est qu'au début, mais il a lancé un truc et il y a de plus en plus de gens qui reprennent ça sur leur blog BD. Bon, enfin, faut peut-être plutôt aller chercher de ce côté-là, mettre des petites animes, des petits trucs sympas et tout. Ça reste de la BD, mais un peu plus animé, et ça peut vraiment donner des trucs
cool. Ou bien alors le case à case qui est tout à fait lisible sur un téléphone. Et qui peut passer, tu sais, quand t'attends, quand t'es en train de glander à attendre un train, un truc, ou faire la queue à la poste, parce qu'il y a 40 mémés qui veulent retirer des chèques.
Folie. Mais...
Ouais. Et on parlait donc des vieux auteurs qui râlent. Actuellement, il y a une grogne qui est arrivée sur. Voilà, en gros, il y a un article de la Charente Libre qui t'explique que Turf a dû vendre sa voiture et des planches originales, une Turf de la Nef des Fous, pour vivre, quoi.
Turf, quoi. Non, mais c'est. Enfin, moi, je le dis depuis assez longtemps. Hein. La BD, c'est un milieu où il n'y a pas forcément beaucoup de sous. Jusqu'à présent, les auteurs arrivaient à vivre parce que, bon, les avances sur droit, ça allait, surtout quand tu étais un vieil auteur. Enfin, voilà, les éditeurs te chouchoutaient un peu. Seulement aujourd'hui, on a tellement de jeunes auteurs qui essayent de se faire connaître par leur blog et qui ont déjà en plus du coup une audience et tout ça, qu'on a de plus en plus de sorties. Mais vraiment, ça, là, le rapport de la CBD le montre, hein, on continue d'exploser le nombre de sorties, et que les avances sur droit et tout ça sont réduites, et surtout les tirages de toutes les BD sont réduits au minimum, parce que il faut bien que les libraires derrière puissent diffuser les BD. Et voilà, c'est Turf qui raconte que son magasin sexuel a été tiré à 6000 exemplaires, il a été en rupture au bout de quelques semaines, et qu'il a dû annuler toutes ses séances de dédicace après, parce que le temps de faire une réédition, les libraires avaient plus le temps avaient plus de place pour le remettre en rayon, quoi.
Oui, alors Turf à la rigueur, mais Turf fait un style particulier qui est pas forcément super commercial. Mais il y avait Majorana dans le lot aussi. Et Majorana, lui, alors dans le style, je veux dire, c'est, pour moi, c'est une locomotive. C'est censé être une locomotive à pognon, Majorana.
Ben oui, mais enfin, c'est le cas, parce que voilà, il arrive quand même à vendre par rapport à d'autres. Mais on est toujours sur une édition complètement qui va de moins en moins éditée par BD, quoi. On est à, je sais plus combien il dit Gilles Ratier, c'est plus de 5000 BD sorties sur l'année. On a de plus en plus d'auteurs.
On en a pas lu 10%.
Mais non, mais c'est ça. Non, mais tu peux pas tout lire, loin de là. Enfin, c'est pas la peine. Et t'as des auteurs de BD qui sont auteurs de BD et qui font un autre métier à côté. Enfin, ça a toujours été un peu le cas, mais la tendance s'alourdit de plus en plus. Et on a de moins en moins d'auteurs de BD qui vivent de la BD, en fait. C'est vraiment, ça devient une sorte de revenu complémentaire. Mais c'est vrai que quand tu passes un an sur ta BD à bosser à fond et que derrière, tu vois que tes séances de dédicace sont annulées parce qu'il n'y a plus de bouquins nulle part en France, oui, je comprends que t'es les boules, quoi. Surtout que Magasin Sexuel, c'est vachement bien.
Je l'ai pas lu.
Bah non, c'est normal, il y en a plus.
Ouais, il y en a plus. Bah, c'est ça. Ouais, c'est... Voilà, tu le trouves nulle part, le truc. C'est, ça a été en rayon quoi, 2-3 semaines, et encore. Et tu le trouves plus nulle part.
Est-ce qu'à un moment, tu vas pas quand même avoir vraiment une sorte de crash du système éditorial, dans le sens où tellement de production va faire que il va plus y avoir assez de ventes, quoi. Est-ce qu'on va pas se retrouver d'un coup avec une rupture complète avec les acheteurs?
Mais là, on y arrive, parce que les auteurs, même les grands auteurs, n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Enfin,
sauf Yves Saint.
Oui, ou Arleston. Enfin, lui, ça va, je ne me fais pas trop de problèmes pour lui. Avec en plus un décalage entre les scénaristes et les dessinateurs.
Yves Saint, lui, il a trouvé le truc, il s'est dit, tiens, si je reprenais que des séries qui, de toute façon, vendent, même si c'est nul.
C'est ça. mais on a quelques auteurs qui, eux, gagnent très très bien leur vie, qui sont chouchoutés par les éditeurs à fond, et eux, il ne faut surtout pas les perdre, parce que c'est eux qui font 40 ou 50% du chiffre d'une maison d'édition. Et à côté de ça, on a une ribambelle d'auteurs. C'est ce que disait Vendry dans Un œil sur la BD récemment. Il disait, t'as eu, avec le blog BD, t'as eu toute une génération de gens qui sont arrivés en disant, je veux faire de la BD et regardez ce que je fais sur Internet, qui ont eu leur auditoire, qui ont eu des gens qui étaient prêts à acheter leur BD et qui, eux, comme ils sont habitués à donner leur truc gratuitement sur Internet, sont pas dans les mêmes négociations que des auteurs de BD qui font ça pour bouffer, quoi.
Et, Attends, je veux juste, petit aparté, stop, hein, qu'on arrête de parler de Vendry. Déjà, il y a son jeu de cartes qui apparaît dans Bref. Ouais, il se fait une pub de malade, hein, il n'y a plus besoin qu'on en parle, merde.
D'accord, bon, alors, il y a Monsieur W, on ne dira pas qui c'est.
Voilà, Bref, WL. Voilà, Monsieur W Leroy.
Bah, c'est ça. Et à côté de ça, ce qu'il disait, c'est que, il y a plein de, en termes artistiques, il y a plein de trucs qui sortent, mais que, du coup, en termes éditorial derrière et en termes du milieu de l'édition, ça, voilà, c'est une bulle qu'on est en train de voir là. C'est une vraie bulle quand tu vois que du Glénat, du Delcourt augmentent encore leur catalogue. Enfin voilà. Et franchement, moi, enfin voilà, bon, je vais balancer un peu, mais j'ai une discussion avec un éditeur qui disait, mais on le sait qu'on fait 80-90% de merde. Mais c'est comme ça. Faut être sur le marché, faut être partout. Et c'est voilà, c'est le marché aujourd'hui. Donc ils en sont conscients.
Il faut être sur les étalages. Mais disons que le modèle américain nous montre que ça a marché. DC Comics avec ses 52 nouveaux numéros le même mois, 52 numéros, bam, sur les étalages le même mois. Bizarrement, ils ont cartonné. Ils ont écrasé tous les autres parce qu'on voyait plus qu'eux.
Mais ils le savent qu'ils vont avoir 80-90% de merde, tu vois. Mais ils s'en foutent parce que ça va être des auteurs. Ils leur disent voilà, t'as une avance sur droit de 5 000 €, tu bosses toute l'année. Et voilà, 5 000 € pour bosser toute l'année. T'imagines comment tu vis avec ça ? Parce que c'est à l'époque, les avances sur droit étaient plutôt autour de 10-12 000. Et là, on est à 5-6 000 quoi, pour les auteurs en ce moment. Je vois pas très bien comment tu vis avec ça, quoi.
Tarek, qui est un scénariste, qui a amené un petit peu à râler, qui a fait un petit article de grogne. Je pense que ça va être super rigolo et animé à Angoulême, justement là-dessus. C'est pour ça que je parlais de combat de catch. On va avoir une super ambiance.
Il y aura chat.
Ouais, ça va se friter. Ouais,
s'il y a du catch, il y aura chat. C'est obligé.
Si c'est du catch, elle est obligée d'être là.
Donc, je pense que... Est-ce qu'on risque pas d'arriver de plus en plus justement sur des modèles de... les auteurs qui vont se mettre à faire de la prépublication sur Internet avec leurs propres moyens et leurs marges à eux que pour se passer des éditeurs en partie.
Mais comment tu peux faire ça ? Enfin, autant tu m'aurais dit ça il y a 5-6 ans, je t'aurais dit oui, tu vois. Enfin, mais regarde les blogs BD qui fonctionnent, c'est tous des blogs BD qui sont arrivés avant, tu vois, avant maintenant. Aujourd'hui, tout le monde est sur Internet. On est dans un truc énorme de surinformation. Et un auteur tout seul dans son coin qui fait son petit blog, à moins de faire un énorme buzz de la mort, il n'aura pas demain autant de vues que Boulet sur son blog. Parce que Boulet, il était là il y a, 7-8 ans, un truc comme ça.
Enfin, mais qu'en plus, il est génial.
Mais non, mais aujourd'hui, Internet, c'est une jungle, quoi. Enfin, il y a tout le monde qui fait son petit blog de son côté et qui essaye, tant bien que mal, d'attirer l'attention. Et pour attirer l'attention sur Internet aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué parce qu'on a de moins en moins de temps à consacrer. Donc moi, je suis pas sûr que les auteurs tout seuls pourront faire ça dans leur coin. Par contre,
est-ce qu'on pourrait pas avoir un clash à la Image Comics ?
Non, j'allais te dire, est-ce que les auteurs d'un coup ne vont pas se casser des grosses boîtes et monter leur propre truc
un clash la Image Comics où on a, alors on sait que ce que ça a donné, hein, c'est-à-dire que la plupart des dessinateurs qui sont retrouvés à gérer Image Comics ont plus dessiné.
Ben voilà.
Penses à Jim Lee, oui. Avant qu'il se recache chez DC Comics, il dessinait plus.
Oui, mais sauf que pendant peut-être 2-3 ans, ça a quand même eu d'un coup une grosse coupure qui a fait que ça a quand même changé aussi.
Que les auteurs ont été mieux payés, que les jeunes talents ont été découverts, genre un Turner.
Oui, voilà, mais que Marvel et DC aussi se sont reposés quand même des questions et ont changé un petit peu leur ligne éditoriale, quoi.
Oui, ouais. Mais quels auteurs aujourd'hui peuvent faire ça, peuvent clasher d'un coup?
Parce qu'ils ont pas les casse de soleil.
Ouais. Mais non, voilà, il faut que ce soit des gros en fait qui le fassent.
Mais oui, mais Arleston, lui, t'inquiète pas, il vit bien.
Il a pas de soucis,
ouais.
C'est l'un des seuls scénaristes qui roule en Ferrari, enfin.
Il roule en Ferrari.
Tu l'as pas vu garer à Aix?
Non, je l'ai pas vu à Aix.
Je sais plus qui m'avait dit ça, mais alors c'est peut-être une légende urbaine, hein, j'en sais rien, mais on me l'avait présenté comme ça.
Donc, je pense qu'on va avoir pas mal de mouvements. Il va se passer beaucoup de choses d'un point de vue du numérique cette année. Ah, je pense qu'il va se passer des trucs cette année dans le numérique.
Je suis même pas sûr que les auteurs iront jusque-là. Là, il y a quelques articles et tout ça, mais à côté de, je dirais, de ce ramdam, il y a surtout le côté. L'éditeur, ça reste leur principal partenaire parce que l'éditeur sans auteur, il fait rien, mais l'auteur sans éditeur,
on peut dire ce qu'on veut, ce n'est pas les méchants éditeurs contre les gentils des auteurs.
Les éditeurs rament vachement, c'est-à-dire que c'est ça qui, moi, me rend le plus triste, c'est-à-dire que les auteurs se montent contre leurs éditeurs, mais qu'il faudrait peut-être aussi voir un peu plus loin sur le marché en global. Parce que il vient de là, à mon avis, le gros souci, et qu'il n'y a eu aucune innovation dans le numérique. Pour moi, c'est aussi lié. C'est-à-dire qu'on a plein de gens qui sont arrivés via le numérique et qui ont été découverts comme ça. Mais moi, je ne pense pas que ce soit les éditeurs qui soient coupables de quoi que ce soit. Quoique certains, quand même, font quand même un peu du mal, et je ne sais pas s'ils s'en rendent compte, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est juste pour occuper le marché, parce que sinon, ils sont dans la merde aussi, hein, les éditeurs.
Ils font du mal, mais c'est aussi, je veux dire, leur but, c'est de survivre. Enfin, c'est pas des œuvres caritatives, quoi.
Oui, mais sauf que, par exemple, si tu prends Soleil, je veux dire, quand tu vois le nombre de parutions. Alors,
ça, c'est vachement amélioré, Soleil, en termes de qualité de
parution. C'est pas les pires. C'est pas les pires. Oui,
dernièrement, ils ont quand même, je pense, un petit peu réduit le nombre de parutions, mais à un moment, Soleil, tu l'avais tout le temps, sur toutes les étals, tu avais que du soleil, quoi.
Ah bah peut-être chez toi, mais.
Ouais, mais c'est parce que de par chez nous, ils sont tous potes avec les auteurs de chez Soleil.
Non, mais c'est ça, mais t'as du Delcourt et du Glénat, hein, surtout, hein, qui eux augmentent de plus en plus leur production, et comme c'est deux gros.
Les auteurs de chez Soleil, ils achètent leur BD à la même librairie que nous, donc.
Ouais, c'est ça.
Mais surtout, c'est que t'imagines que les auteurs de Soleil sont obligés d'acheter leur BD pour pouvoir les lire.
Si le débat vous a intéressé, on peut le continuer sur le blog, dans les coms, parce qu'effectivement, si vous avez une idée géniale, une solution magique pour sauver la bande dessinée, révolution.
Non, mais je pense que c'était ça qu'ils ont vu, les Mayas, le 21 décembre 2012, c'est juste la fin de la BD, tu vois, c'est pas la fin du monde.
Soleil et Delcourt et Mediapart qui vont tomber.
Ouais, il y a encore Glénat. Bon, allez, on fait tomber les trois et il n'y a plus rien.
On va finir avec notre petite news rapide sur les news audiovisuelles et BD. On commence avec, juste pour vous informer, qu'il a été mis à disposition sur Internet un pilote d'un petit dessin animé basé sur le travail de Trondheim. Enfin, tellement basé qu'il joue de la guimbarde quand même dans le truc. Il fait des dessins. Enfin, c'est assez énorme. Ça s'appelle Marcus. Ah ouais. Ça s'appelle Marcus. C'est super mignon. Enfin, c'est mignon et trash. C'est l'histoire d'un chat tueur à gages qui fait toute une série de coïncidences dans tous les sens pour tuer sa victime. C'est court, c'est sympa. Donc allez y jeter un œil, on reconnaît vachement bien le trait de Trondheim et c'est super bien animé. Tu voulais nous parler du bleu est une couleur chaude ?
Ouais, c'est une super BD qui a été pris du public l'an dernier à Angoulême. Et donc là, d'après les dernières infos, ça va être adapté au cinéma par, c'est Abdelatif Kechiche, en fait, qui va faire ça. Alors, moi, j'ai adoré la BD. Abdelatif, il a fait L'Esquive et Vénus Noire. C'est des films que moi j'ai pas vus, mais apparemment.
Vénus Noire, qui était aussi un projet.
Vénus Noire, ouais.
Vénus Noire, qui était aussi une BD, ouais. Bah, qu'on avait lu d'ailleurs.
Ouais, oui.
En tout cas, c'est une, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que la BD est vachement bien. Voilà, si vous l'avez pas lu, jetez-vous dessus si vous le trouvez encore.
Par contre, j'ai peur.
Mais alors, par contre, voilà, c'est ce que j'allais dire aussi. J'ai peur parce que, en fait, il y avait un parti pris esthétique dans la BD de Julie Marot qui marchait vachement bien. C'était le fait qu'il y avait quasiment pas de couleur en fait et qu'il y avait que les cheveux de cette héroïne.
Dans les passages de flashback, voilà.
C'est ça qui apparaissait. Enfin voilà, il y avait quand même quelque chose de très esthétique, de très. Voilà, et je sais pas trop ce que ça va donner.
Moi, ce qui me fait peur, c'est que autant je trouve ça vachement sympa en BD, autant en film, j'ai peur que ce soit super chiant en fait.
C'est ça. Voilà. Et si on en arrive au milieu, enfin, d'un film français normal entre guillemets, on risque quand même de se faire un peu un peu chier. Alors que la BD est vachement bien.
Et sinon, une grande nouvelle.
Voilà. Alors ça,
très grande
la
nouvelle.
Bonne nouvelle de cette de ce début d'année. Hein. Je pense que la Warner a pris des bonnes résolutions. Et vient de mettre en stand-by assez violemment le projet d'adaptation d'Akira. Parce que, après avoir été d'accord sur 180 millions de dollars pour faire le film qui, à la base, devait être un diptyque, il y a eu des problèmes, comme vous le savez, on va pas revenir sur toute l'histoire, Keanu Reeves voulait pas jouer Kaneda, enfin voilà.
Pourtant ça ressemble, Keanu, Kené, tu vois, c'est pareil.
C'est ça, c'est ça, donc ils avaient pris le mec avec la moto, là, enfin voilà, Gareth Edlund. Et là, ils avaient dit, bon allez, on fait en fait qu'un film, et on va dire que Kaneda, il tient un bar, et que, enfin voilà, que l'autre c'est son frère, enfin c'était un peu du grand n'importe quoi. Et là, ils se disent...
Fait rien.
Et là, ils se disent, non, mais même 90 millions de dollars, c'est un peu trop. Donc, ils veulent descendre le budget à 60 millions et ils ont tout mis en stand-by parce que, évidemment, l'équipe dit non, on n'y arrivera pas, tout ça. Donc, ils ont un peu complètement bloqué le projet. Donc, peut-être que la cruche de Twilight ne jouera pas Kay et qu'on n'aura pas son expression monofaciale pendant une heure et demie sur des motos. Voilà.
Là, tu as un regard de Thio qui te trouve méchant avec elle.
Oui, je sais, je m'en
non,
doute.
Non, mais je veux dire, faut pas être méchant, elle a quand même plus d'une expression.
Elle en a deux ?
Ouais, deux.
Bah, ouais, bon,
voilà. Merci, Merton.
Bah, de rien.
Non, attends, oh, t'as raté quand même deux infos.
Ah merde.
Donc, déjà, aujourd'hui, c'est quand même les 100 ans de Charles Adams, le créateur de la famille Adams.
Ouais.
C'est vrai.
Bon, on est le 6 janvier, voilà, parce que je l'ai vu sur Google et ce matin, ça m'a fait.
Voilà, c'est l'épiphanie aussi, mais bon.
On s'en fout, ça. Et ensuite, deuxièmement, donc, Quick va faire des burgers de la mort pour la sortie de Star Wars en 3D!
Bon, c'est ouh, la news de la loose,
c'est
quoi.
C'est le plus pourri de tous, c'est vrai, mais quand même.
Attends,
des burgers.
Il te donne envie, ce burger noir, là.
Attends, un burger Dark Vador avec du pain noir? Oh, là, un burger Darth Maul avec un pain rouge?
Ouais, bah, écoute.
Mais un burger Yoda Moisy.
Je vous dirai ce que j'en ai pensé, hein.
Ok, merci Merton, on se retrouve le mois prochain.
À très bientôt.
Et de toute façon, je pense qu'on va bientôt t'entendre pendant les lives que je vais peut-être, enfin les lives, les enregistrements que je vais réussir peut-être à faire pour Angoulême.
Ouh.
À très bientôt, ciao.
À bientôt, ciao, ciao.
Express. Et tout de suite, nous allons parler de Batman Universe.
Numéro
9.
Donc on va y aller vite fait, hein, c'est de octobre 2011, donc autant vous dire que, oulala, il commence à dater, il est déjà plus trouvable.
C'est pas mal.
Bon, on trouve dedans Rip le chapitre manquant par Grant Morrison et Tony Daniel, qui sont les numéros 701 et 702 de Batman, ainsi que la suite de Batman et Robin doivent mourir, qui sont Batman et Robin numéro 15, avec le magnifique Guillaume March au dessin.
C'est celui-là que je, c'est celui que je pense, ouais. Celui-là est très beau.
Voilà, le magnifique Guillaume March au dessin et au scénario. C'est toujours Morrison, il me semble. Et enfin, on a diverses petites histoires de différentes Batman et compagnie. Qu'as-tu pensé vite fait de ce numéro ?
C'est que là, il faut qu'on arrête, quoi. Soit on fait un vrai bouquin Batman avec une histoire qui suit, parce que moi, là, je nage dans la choucroute.
C'est bon, en gros, le chapitre manquant, c'est terrible, c'est que ça nous raconte tout un passage qui manquait dans une saga qui s'appelle Rip, qu'on n'a pas lu, donc forcément, on est totalement largué.
Ouais, non, mais
qui
même.
Se passe
même...
juste avant que Batman se fasse envoyer dans le passé.
C'est ça. Mais même le reste, je trouve que c'est vachement bordélique, quoi.
Voilà. Ensuite, si dans tout le passage du Batman. Du Batman et Robin numéro 15. Est super sympa avec Guillaume March qui a un dessin génial.
Oui, non, le dessin voilà, est vraiment exceptionnel. Surtout sur le début, je trouve. Après, tu reviens à un style un peu plus classique.
Tu arrives à d'autres auteurs. Et Robin qui se fait libérer par le. Attends, Damian Wayne avec un nez de clown.
Ouais.
Je veux dire, ça parle.
Mais je trouve voilà que vraiment là le scénar c'est dur à suivre quand même.
Je pense que ça sera beaucoup plus clair quand Urban Comics va sortir des intégrales Grant Morrison dans la continuité de Batman. En gros, ils ont décidé apparemment de faire des séries sur les auteurs et on va avoir du le Batman de Grant Morrison où on aura les choses dans la continuité. On sera peut-être un peu moins largué parce que c'est vrai que là, vu que nous on a des trous dans la continuité, on est un petit peu perdu. Ça reste quand même sympathique. Enfin, moi, je trouve ça pas mal. Disons que je vais continuer à le choper quand même parce qu'il y a le Batman Inc. qui arrive et Batman Inc., ça a l'air d'être de la balle.
La suite va être, je pense, très bien. Mais,
parce que Bruce Wayne est revenu, quoi, hein, faut le dire.
Il faudrait quand même que, voilà, que Panini essaie peut-être de mieux gérer sur sa parution, quoi.
Je pense au niveau. De toute façon, ils vont plus avoir à le gérer très longtemps. Oui, mais je pense que c'est surtout que ça manquait de comme le faisait de temps en temps Semik à une époque, quand il reprenait des vieux trucs qui étaient largués, t'avais droit à une page complète de rédactionnel qui te remettait les choses dans le contexte. Et là, ça manque. Leur introduction est un peu trop light. Ultimate Avengers numéro 10, c'est Avengers vs New Ultimates, 1 sur 3, qui est censé nous raconter le début de la mort de Spider-Man. Pour le moment, je cherche le lien, il doit être très très loin.
Elle doit être très capillotractée, effectivement.
Avec, au scénario, Marc Millar, ouais. Et au dessin, Lenil Francis Yu. Alors, vite fait, le dessin de Lenil Francis Yu, t'en as pensé quoi ?
Héroïque.
Ouais, ouais. Moi, je trouve qu'il à l'arrache.
Ah non.
Bah, Lenil Francis Yu, je l'ai déjà vu sur des trucs où il le faisait moins à l'arrache. Et même si là, ça pète, bah, c'est quand tu connais Lenil Francis Yu, pas à l'arrache, bah, là, c'est à l'arrache.
Par contre, il y a juste un petit détail quand même qui je trouve, est assez énorme. C'est que dans le tome 9, le Triskelion se retrouve à peu près en plein désert. Et que 4 pages après, tome 10, il est en plein milieu donc, d'une sorte d'océan. Page de droite, en bas.
Oui.
Et là, d'un coup, on se dit, tiens, en Iran, ils ont retrouvé l'eau.
C'est le coloriste qui a dû se manger un bras.
Ah, il a dû se... Bah, là, il s'est quand même sérieusement mangé le mur aussi, hein, parce que c'est un peu le détail, quand même.
Donc, c'est très sympathique, même si Lenil Francis Yu me fait de plus en plus penser à... Comment il s'appelle, ce dessinateur ? Ah ! Voilà, j'ai oublié son nom. Enfin, Will Sportaccio, au niveau du trait. Maintenant, parlons de Millar. Jusqu'ici, sur Ultimates,
je lui ai copieusement craché dessus, en fait.
Voilà, oui, on était deux, voilà. Un pour chaque œil.
C'est ça. Écoute, j'entrevois peut-être la lumière.
Ouais, ouais, bah ça revient sur du Ultimates. Normal, quoi. De la politique, du conflit super-héroïque qui en jette, et pas de vampires à deux balles, donc on n'a rien à foutre, quoi. Des complots génétiques et machin chose. Bon, en gros, on va voir les Avengers de Nick Fury qui vont se latter contre les Ultimates de Carol Danvers. Je pense qu'on va voir quelque chose d'intéressant, mais là, on sent qu'il y a un complot, il y a une histoire, il y a une intrigue, et pas juste « on est les méchants vampires, on veut contrôler le monde !» qui était bien minable.
Non, qui était pas minable, qui était pourri, mais pourri du cul, quoi. Un truc, une lecture de chiottes, mais à mettre dans le chiotte, quoi.
Voilà. On a été vachement rapide sur notre express, là. On a assuré.
On a assuré, parce que c'était express, mais en même temps, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein.
Ouais. Dans les bacs. The Boys numéro 12. The Boys numéro 12, c'est toujours, si on devait donner le genre, tu sais, comme le truc qu'on a préparé vachement à l'avance, là, on est dans l'intimiste super-héroïque, même pas. Quoi. C'est un épisode très particulier, ce numéro 12.
Bah, rappelle-toi, je t'avais dit au tome 11, il faut que ça avance. Quoi.
Ouais.
Et tu m'as passé le tome 12 et j'ai fait... Waouh !
Rappelons ça rapidement. A avancé. Rappelons rapidement le statu quo, hein, jusqu'ici. Nous avons donc un jeune qui était avec sa copine, qui s'est fait défoncer par un super-héros qui a envoyé un gros méchant dessus. Il ne lui restait plus que les mains de sa copine, sérieux. Qui ensuite se fait approcher par une équipe dirigée par Butcher, qui est une équipe qui surveille les super-héros pour les empêcher de faire des conneries. Parce que les super-héros, bah, c'est tous des cons. Parce que le scénariste, Garcenis, part du principe qu'à partir du moment où on a des grands pouvoirs, on fait des grosses conneries. Sauf que notre héros, le petit Huggy, est tombé amoureux d'une jeune fille qu'il a croisée alors qu'il était en pleine déprime dans un parc. Malheureusement, nous on le sait depuis le début, cette jeune fille s'affaire être la nouvelle membre d'une équipe de super-héros, les 7, l'équipe la plus puissante du monde. Et pour y rentrer, elle a dû faire des choses que la morale réprouve avec sa bouche et des organes génitaux masculins.
C'est ça.
C'est dit proprement, t'as vu.
Dont un des gars... Enfin, dont le gars qui est responsable de la mort de la copine de la copine. Petit Yogi. Traînard.
Et nous sommes dans l'épisode où, enfin, les personnages vont se révéler les choses. Alors, dans l'épisode précédent, on avait Butcher qui s'inquiétait, parce qu'il s'est rendu compte qu'il traînait avec cette fille-là, il s'est dit peut-être que c'est un traître. Il a bien redécouvert que non, en fait. Même si pour...
En étant à deux doigts de le faire tuer.
Ouais, ouais, parce qu'il a des méthodes un peu d'enfoiré.
Que même la crème a voulu lui casser la bouche.
Ouais. Et donc, là, bah, ce qui se passe, c'est qu'on a cette révélation-là, et comment est-ce qu'ils réagissent les uns et les autres à cette découverte ? D'autant qu'on demande à la jeune fille qui s'appelle Annie, je sais plus comment c'est quoi son nom de super-héroïne, comme quoi c'est pas ce qui est important, d'aller participer à la super soirée des super-héros religieux. En gros, ils sont un peu considérés comme des dieux, le truc super catho, eschatologique de la mort.
Ouais.
Ouais. Voilà. Et oui, oui, oui. Bon, on a encore du trash, faut pas hésiter. Hein, parce que oui, là, non, là, tu as des super-héros et des petits-enfants.
Et là, on est quand même dans du très très trash.
Mais c'est pas ce qui m'a marqué dans cet épisode.
C'est vraiment pas l'essentiel de ce tome 12.
Alors, revenons vite fait sur le dessin. Quand même.
Moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une grosse part d'émotionnel, en fait.
Sur le dessin ?
Ouais.
Moi, ça ne m'a pas choqué. On est dans le ton habituel. Hein. C'est toujours... zut, j'ai oublié le nom du dessinateur que j'aime bien. Je le mettrai sur le podcast parce que, voilà, comme quoi on a bien préparé notre émission.
Oui, non, mais ça, surtout, c'est parce qu'on n'a plus le tome 12, en fait.
Oui, en fait, on l'a prêté. Ouais, il est parti très, très vite.
Voilà, à d'autres personnes qui lisent aussi assidûment. Et donc, je trouve que tu avais vraiment une part de visuel sur les réactions des personnages, sur leur émotion.
L'insistance sur les visages.
Ouais, qui est... Bah, je trouve qu'il est assez... pas novatrice, mais en tout cas qui est un petit peu nouvelle dans cette série-là.
Dans cette série, oui.
Et
Garcenis, c'est un bourrin quand même à la base.
Oui, mais je trouve.
Et là, non.
Ce tome-là, je trouve qu'il est tout
Venons
en.
Venons-en scénario.
Il est tout en finesse, quoi.
T'as dit quoi ? Moi, mon mot pour le scénario, c'est humain.
Donc, moi, le dessin, c'était émotionnel et le scénario, c'était triste, quoi.
Moi, il était à la limite de m'arracher une petite larme, ce Garcenis. Garcenis qui t'arrache une larme et pas parce que tu fais oui, j'ai mal pour lui. Non, là t'as mal pour lui, mais t'es touché au cœur, quoi. Je veux dire, il arrive à faire un truc où il parle de sentiments. Garcenis qui parle de sentiments. Garcenis, il parle de mecs qui sniquent des putes et qui sniffent des rails de coke et qui tuent des gens.
Non, qui se tapent des hamsters.
Et qui se tapent des hamsters. Là il est... Mais où il va, Garcenis ? Mais où tu vas, Garce ? Merde ! Tu vois ?
Et justement, il nous prend un contre-pied, on s'y attendait pas, et là, paf ! L'émotion.
Voilà. Flaf ! Et voilà. On s'est fait prendre à revers totalement par Garcenis. Ah là là, l'enfoiré.
Non, franchement, c'est le changement que j'attendais, quoi. Je te dis, il faut qu'il se passe un gros truc. Ça se passe. Et là,
poil quand tu le voulais.
J'ai trouvé que cette fois-ci, comme nous, c'était énorme. Énorme. Et super bien dessiné, super bien amené. Et à la fin, tu es là, tu te dis, mais comment. En plus, en parallèle de ça, tu as quand même l'histoire du chef des sept,
oui,
qui commence lui à péter, à mon avis, un gros boulard.
Qui en veut à l'organisation qui s'appelle Vote Américaine et qui gère
le droit des sept.
Qui est le RP, hein, qui sont les représentants en com des sept, et qui gère tous leurs droits et compagnie.
Et là, ça va être compliqué.
Ça va être compliqué. En tout cas, la série en devient que plus intéressante. Enfin, un tome étonnamment. Dans l'émotion pour du Garcenis, je le répète, je savais qu'il en était capable, mais parce qu'avec Preacher, de temps en temps, il se le permettait, mais pas aussi subtilement, en fait. Voilà. C'est franchement bravo, Garcenis. Donc nous recommandons The Boys.
Franchement, ouais, là, c'est...
Valérian.
L'armure du Jacolas. De
Manu Larsenet. Valérian par Manu Larsenet. Le jour où j'ai entendu qu'ils allaient nous faire un Valérian par Manu Larsenet, j'ai cru que c'était une blague. Parce que j'aime bien Valérian. Hein. D'ailleurs, tu as remarqué, ça s'appelle Valérian par et pas Valérian et Laureline. Alors que la série, maintenant, s'appelle Valérian et Laureline. Franchement, c'est Manu Larsenet, tu es un sale sexiste. Donc moi, quand on m'a dit ça, j'ai fait... Attends, laisse-moi voir un peu l'ambiance de Valérian. On a un style... très inspiré de l'école américaine, une ambiance de l'espace. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Manuel Arsenet ? Il a fait les cosmonautes du futur, tu vois. C'était dans l'espace, c'était des gamins qui se prenaient pour des héros et compagnie. Non, mais pas Manuel Arsenet, quoi, là-dessus. Ah, qu'est-ce qu'il nous a fait récemment ? Blast ? Ouais, d'accord. Oui, non, ça n'a rien à voir avec ce qu'il faisait dans le comic, mais c'est pas possible. Et donc, on se retrouve avec ça. Alors, le genre. Vas-y, balance un mot pour le genre, je balancerai l'autre, comme quoi on s'est préparé. Genre.
genre bidonesque,
épique, ouais. Épique. En gros, nous avons Laureline qui débarque dans un rad, un bar, où un mec est en train de rêver à aller dans les étoiles, etc. Et qui chope ce mec-là et qui lui dit « On sait que tu es Valérian, que tu as pris le contrôle de son corps, tu as oublié une partie de tes souvenirs. Il va falloir qu'on réussisse à retrouver, à te redonner tes souvenirs pour que tu redeviennes Valérian. » Parce que là, tu es dans le corps d'un...
d'un pecno, quoi.
D'un pecno qui traîne bouzeux. Chez Francisque, un des bars d'une des BD de Larsonet, qui s'appelle Chez Francisque. Et donc, on a un peu les personnages de Valérian qui sont dedans. Une Laureline plutôt bien dessinée. C'est, je viens de me rendre compte qu'en fait, Manu Larsonet sait dessiner des personnages féminins agréables à l'œil. Je dirais pas jusqu'à follement sexy, hein, c'est pas non plus.
Ouais, non, c'était. Oui.
Mais sa Laureline tient la route. En fait, ces personnages, on reconnaît bien les personnages de Valérian, en tout cas. Les Shingus, il les fait super bien.
Ouais.
Franchement, les Shingus de Larsonet, ils sont super sexy. Si vous êtes extraterrestrophile. Mater les Shingus de Manu Larsonet. Franchement, ouh, ça va vous faire remuer votre slip. Continuons dans la poésie.
Voilà, c'est ça.
Donc, ils essayent de devoir trouver le Jacolas qui, en gros.
Est le seul à pouvoir remettre Valérian dans son corps.
Dans son corps. Et donc, il est sur une prison où personne ne peut aller, etc. Et alors, on retrouve le côté débile et burlesque. D'ailleurs, c'est mon mot pour le scénario de Larsonet. Tu as mis quoi au scénario ?
Drôle.
Voilà. On retrouve ce côté-là. Moi, ce que j'aimais quand il faisait les Bill Barut, tu vois, ce côté complètement à l'ouest. Mais on reste dans du Valérian. Il a respecté les codes. C'est énorme.
Énorme.
Je vois, enfin, il y en a une collision de deux univers, mais qui fonctionne super bien. Et donc, il y a des trouvailles scientifiques, genre la planète prison qui est protégée d'une certaine manière. On ne peut y rentrer qu'en faisant certaines techniques. Forcément, quand le vaisseau se voyage dans l'interespace, il utilise les mêmes techniques graphiques, sauf que le vaisseau, là, c'est une maison. C'est assez... voilà, bon, moi, le scénario m'a bluffé.
Gloire au grand rat musqué.
Ouais, qu'est-ce que tu rajouterais sur le scénario ?
Moi, j'ai trouvé ça excellent parce que, comme je dis, c'est, pour moi, c'est un petit peu les aventures de c'est un bidochon qui se retrouve à jouer le rôle de super-héros. Et tout passe nickel. Je veux dire, cette espèce de désinvolture du héros qui se dit non, mais attends, je suis Valérian, quoi.
Ouais.
Et le gars, ben, d'un coup, il est sûr de lui, il ne fait pas que rêver des étoiles, quoi.
Il est le héros,
quoi. Et ça passe trop bien. Trop bien. En plus, je veux dire, le concours de circonstances fait que tout se déroule comme s'il avait un plan prévu d'avance, mais en fait, c'est que du pur hasard et les coïncidences s'enchaînent de manière parfaite.
C'est très très bien écrit et c'est bien dessiné. Pour le dessin, j'ai mis expressif. Je trouve que le trait de Larsonet, enfin, on voit qu'il a beaucoup mûri avec Blast, hein, d'un point de vue du trait. Il a réussi à avoir quelque chose de très expressif, un côté un peu exagéré dans les visages, mais qui passe très bien. Il a un usage maintenant du noir et blanc qui est beaucoup plus chiadé que ce qu'il faisait avant. Et puis en plus, les couleurs de Jeff Pourquier ne gâchent rien. De très 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 jolies couleurs, un peu à l'aquarelle, je ne sais pas quelle technique est utilisée. On dirait de l'aquarelle ou des encres, enfin, ça a une certaine classe.
Ouais, j'ai trouvé vraiment dynamique au niveau du dessin parce que c'est. Y a toute l'aventure quoi, qui passe et pour autant t'as l'enchaînement parfait, je trouve, dans les actions. Au départ, c'est vrai que voilà, quand tu m'as passé ça, j'étais en plein doute, on va dire, mais finalement, une vraie bonne surprise. Quoi. Et donc, Valérian qui s'envoie des verres de rouge après.
C'est ah, donc on ne peut que recommander l'armure du Jacolas. J'espère que le Valérian part va se poursuivre. Hein. C'est un peu que ça va pas être en stand-by comme à l'heure actuelle les Spirou et Fantasio part. Que j'aimerais bien en avoir d'autres parce que c'était une bonne idée. J'espère que ça va se poursuivre. C'est une très très bonne idée de refiler ses jouets à quelqu'un d'autre. Et c'est une idée géniale que Mézières et Christin et passer le truc à un auteur qui n'avait pas l'air du tout d'être fait pour ça. Et qui s'en sort avec brio.
Ah ouais, non, là, franchement, c'est... Excellent.
Blotch! Page!
Bonjour et bienvenue à Interlivre, le magazine de la bonne pensée et du juste mot qui va s'attaquer ce soir au drame de notre société moderne, le manga. Ce ramassis informe qui ressemblerait à une histoire et qui, malheureusement, est en train de pervertir totalement notre jeunesse japonaise. Nous avons donc comme invité monsieur... Je ne vais pas vous donner votre nom, étant donné que ce que vous faites est tout à fait permissif.
Je m'appelle monsieur Tsutsumi, mais ce n'est pas ce qui est le plus intéressant. Je me porte totalement en faux par rapport à ce que vous dites. Je pense, monsieur, que vous mélangez plusieurs genres littéraires différents. Le manga est quelque chose qui est une façon de raconter des histoires, mais qui peut raconter un nombre infini d'histoires.
Quand vous racontez une histoire, vous racontez quoi ? Vous racontez du sang, de la violence, du sexe ? Il n'y a aucun moment, notre jeunesse peut se reconnaître là-dedans. Nous sommes ici dans un... Nous voulons élever notre société, et vous, qu'est-ce que vous faites ? Vous la rabaissez en mettant tout de suite la violence, des morts, des enquêtes. C'est ça la société pour vous ?
Ah, mais je crois que vous me prenez... Mon but n'est pas de faire de la bande dessinée pour enfants. Je pense que le manga et les œuvres du maître Tezuka...
Dans ces magasins de prêt où on vous retrouve, vous êtes bien emprunté par des enfants. On est quand même...
Je pense que c'est juste parce qu'il y a encore une méprise sur ce que nous faisons. J'ai essayé de avec mes amis de l'atelier Geki Gashobo, de créer un nouveau genre de bande dessinée qui reste du manga, mais qui soit destiné à un autre public. Effectivement, je pense que les bibliothèques de prêt, qui sont le mode le plus courant dans ces années 60 pour lire de la bande dessinée, devraient réussir à montrer séparément ce nouveau genre que nous essayons de mettre en place.
Et comme vous utilisez beaucoup le mot incompréhension, peut-être que ce que vous faites n'est pas assez clair pour qu'on puisse le comprendre, justement. Donc, cette société et ces enfants qui sont en train de lire vos bandes dessinées peut-être ne comprennent pas ce que vous essayez de nous dire.
Comme je vous l'ai dit, nous essayons de créer quelque chose de nouveau, d'aller de l'avant, de ne pas nous contenter des connaissances du passé. Il y a eu une époque où les récits en quatre cases étaient les récits les plus à la mode. Maintenant, nous commençons à avoir des histoires un peu plus intéressantes, des choses un peu plus suivies. Je pense que l'on peut aller vers...
que vous qui jugez ça intéressant.
Je pense qu'on peut aller vers le récit long pour essayer de raconter des choses et être aussi proche du roman. Dans le roman, il y a de la violence, il y a du crime. Ce que nous voulons faire, c'est du roman en bande dessinée.
Et donc, vous souhaitez donc toujours faire partie, vendre de la bande dessinée qui raconterait donc la violence. Vous pensez que après l'histoire actuelle de notre pays, nous avons encore besoin d'en avoir un petit peu plus.
Mon but n'est pas de raconter la violence. Mon but est de raconter des histoires intéressantes. Et lorsque l'on s'attaque au genre policier, lorsqu'on veut faire frissonner les gens, lorsque forcément, il y a des histoires de meurtre, et c'est ça qui est intéressant.
Oui, mais en même temps, là, vous racontez des histoires, mais la plupart du temps, vous essayez finalement de raconter des histoires qui sont déjà soit parues sous forme de films aux États-Unis, soit qui sont... vous n'écrivez rien, en fait. Vous faites du plagiat.
Je crois que vous n'êtes pas renseigné. Je m'inspire, effectivement, du cinéma en règle générale. Je suis un grand amateur de cinéma américain et français, particulièrement, où il y a vraiment de très grands réalisateurs. Je pense à Louis Malle, par exemple, un génie. Alain Delon, par exemple.
Je ne le connais pas.
Alain Delon est un acteur magistral. Il a fait un film récemment où il changeait totalement de son image de beau garçon et où il avait un rôle du mauvais garçon, vraiment très intéressant. Un acteur qui plaît beaucoup aux jeunes filles, d'ailleurs, cet Alain Delon. Et non, je m'en inspire au niveau des codes, au niveau du rythme. Je pense que s'il y a trop de texte sur la case, sa lecture en est ralentie et on n'arrive pas à avoir un rythme fluide et à réussir à transmettre une émotion pour toucher le lecteur.
Oui, enfin, quand vous parlez d'émotion, vous parlez quand même de personnes donc, qui vont être dans la violence, qui vont être dans les morts, dans... Est-ce que nos enfants peuvent se construire grâce à ça ? Est-ce que vous êtes même enfant, vous avez pu vous construire en imaginant seulement donc, des meurtriers, des yakuza, de la mafia ? Est-ce qu'il n'y a que ça pour vous dans votre société ou dans celle en tout cas que vous voulez construire pour peut-être un jour vos futurs enfants, si des fois vous osez vous reproduire ?
Écoutez, je trouve que vous exagérez. Mon œuvre est modeste. J'essaie simplement de faire avancer les choses. Vous comprenez, je ne crois pas que mon travail soit exceptionnel. Je pense simplement qu'il essaye d'aller de l'avant, d'amener quelque chose de nouveau. Nombreux de mes collègues sont bien plus talentueux que moi et arrivent à avancer ces idées bien plus intelligemment. Je veux simplement vous dire que, en ce qui concerne la jeunesse, je pense que peut-être, grâce à ce que nous sommes en train de mettre en place maintenant, grâce aux magazines qui nous publient, la bande dessinée japonaise va changer, va évoluer, et bientôt notre jeunesse ira vers quelque chose de nouveau qui sera une réponse à ce que vous dites, et qu'enfin ils auront des récits longs, des récits sur le long terme, comme on n'en voit que très peu maintenant.
C'est-à-dire que vous voulez quoi ? Qu'à la fin, ils se mettent à réinterpréter les livres qu'ils sont en train, enfin, les mangas qu'ils sont en train de lire et qui se déguisent dans la rue, par exemple, c'est ça ? Qu'on en arrive même à ce qu'ils acceptent de ne plus vivre dans la réalité ? C'est une belle société que vous voulez nous construire.
Monsieur, face à tant de mauvaise foi, je ne peux que faire appel aux esprits du futur et la demander de me rejoindre pour réagir face à vos allégations trompeuses et vous faire... Devant cette chute fort méprisable et minable, pour parler d'une œuvre aussi géniale...
Mais on a beaucoup réfléchi avant.
Ouais, aussi géniale qu'Une vie dans les marges. Donc Une vie dans les marges qui est une autobiographie de Yoshihiro Tsutsumi, qui a une modestie toute japonaise, car d'ailleurs son héros, qui est lui-même, s'appelle autrement, Hiroshi Katsumi. Nous suivons donc dans ces deux tomes l'histoire de ce personnage qui est quelqu'un qui a révolutionné le manga. Il a tenté d'essayer de créer des histoires modernes, des histoires qui visent les adultes. Car étonnamment, tout le débat qu'on a eu nous dans les années 80 en France, eux ils l'ont eu dans les années 60. J'ai été énormément surpris en le lisant de me rendre compte que j'avais une image totalement déformée de ce qu'était la culture de la bande dessinée japonaise. Et que de me rendre compte, on avait juste simplement 20 ans de retard. C'est ça en gros.
À peu près.
Tsutsumi, lui, a commencé en répondant à des annonces. En fait, on pouvait envoyer des BD par carte postale au magazine, qui étaient à l'époque publiés dans les librairies de près. On est vraiment dans l'après-guerre. Le premier tome nous raconte ce qui se passe entre les années 50, il me semble, non, 48 et 56, si je me souviens bien.
À peu près.
À peu près. Voilà. On a prêté tous nos tomes, en fait, dont vous voulez parler.
Non, c'est rien.
Entre 48 et 56, et le tome suivant continue sur de 56 aux années 60, avec une fin relativement ouverte et une conclusion très jolie sur laquelle on reviendra. Tsutsumi est un jeune qui commence très très tôt à dessiner avec son frère qui est malade, qui est gravement malade, qui va être à la fois son conseiller, son concurrent et assez jaloux du talent de Tsutsumi. Tsutsumi a été remarqué aussi par un certain monsieur Tezuka, qui est un jeune étudiant en médecine qui s'est lancé dans la bande dessinée. Donc la bande dessinée pour enfants, hein, c'était la bande dessinée jeunesse, principalement avec des histoires courtes, parce que c'était le genre, dans les librairies de prêt. C'est quelque chose de très important ce côté librairie de prêt, parce que c'est comme ça que la bande dessinée était consommée à l'époque. On louait la bande dessinée, et donc les magazines étaient édités de façon régionale pour des chaînes de librairies de prêt locales. Et donc, il y avait forcément une certaine concurrence entre la bande dessinée de près de Yokohama et la bande dessinée de près de Tokyo, qui n'était pas la même chose. Tous les jeunes auteurs rêvaient d'aller bosser à Tokyo, et puis tous les jeunes auteurs rêvaient d'être Tezuka. Quelque chose qui est impressionnant dans ce bouquin, c'est que Tezuka est en filigrane tout du long, et c'est le modèle.
Le maître.
Le maître. C'est le mec, et à chaque fois qu'on le voit, c'est « Monsieur, je suis... » Je suis super humble, je fais les choses comme ça, etc. Il est vraiment en filigrane tout du long, et c'est d'ailleurs lui qui conclut l'histoire, car la dernière scène revient sur une cérémonie en hommage à la mort de...
En 95, je crois.
Voilà, à la mort de Tezuka, aux 2 ans de la mort de Tezuka.
Non, 7 ans.
7 ans. Voilà.
Je fais ça tout de suite. 7 ans. C'est le 7e anniversaire de la mort de Tezuka en 95.
Donc le Gegika, qui est un terme qui a été donc créé en 56 par Tsutsumi, désigne une bande dessinée qui cherche à faire des histoires réalistes, enfin, non humoristique, contrairement au manga, ce qui veut dire dessin comique, et qui essaye de toucher un public adulte. Chose très difficile à l'époque, parce que le manga était pour les jeunes, et on retrouvait donc les Gekiga à côté des trucs jeunesse. Et ce qui est génial dans cette BD, c'est qu'on va suivre l'évolution du Japon d'après-guerre. Comment est-ce qu'il évolue ? Surtout dans le tome 1. Le tome 2, on est déjà à la phase d'expansion du Japon, de la technologie et compagnie, quand ils commençaient à fabriquer des puces électroniques de la mort. Et donc, on est vraiment tout le côté historique est un peu plus mis de côté, pour vraiment rentrer sur la vie des éditeurs, la survie des éditeurs, et la difficulté de créer un genre, de travailler ensemble.
Ouais, travailler ensemble, parce que ça, visiblement, c'est pas facile.
C'est pas facile, oui, parce que Tsutsumi essaye de fonder un studio et il rame pas mal parce que chacun a ses préoccupations. Il y a une certaine jalousie entre les auteurs. Il y a la volonté, les auteurs ont besoin de vivre, donc ils doivent bosser pour plusieurs éditeurs, mais les éditeurs veulent pas que les auteurs travaillent les uns chez les autres, donc ils leur demandent d'utiliser des pseudos, sauf que les auteurs, ils ont envie d'être connus pour leur travail, donc ils ont pas envie d'utiliser des pseudos. On a vraiment tout un groupe qui se met en place, beaucoup aidé par leur maître de l'époque aussi indirectement, qui s'appelle Kuruma. Qui est le plus vieux de la troupe et qui, lui, essaye de monter ce genre-là. On voit aussi qu'il y a une sorte de, comment dire, de convergence. C'est-à-dire que beaucoup d'auteurs essayent d'aller vers un genre plus moderne et plus adulte, toujours en s'inspirant aussi du genre cinématographique. Ce que Tezuka avait déjà fait en amont, mais là, c'est vraiment totalement assumé. Et qui s'appelle pas forcément ça Gekiga ou quoi que ce soit, qui s'en accroche ou pas. Le livre est très bien foutu et on a différentes versions, définitions du Gekiga à la fin du, à la fin du livre. Ce bouquin a pris 12 ans à être écrit à Tsutsumi.
Vu le nombre de pages, tu m'étonnes quoi.
Deux gros tomes, on reviendra sur la qualité de l'édition plus tard. Il a commencé en 94 à la demande de Furukama Mazuzo, qui est en gros le patron d'une chaîne de librairie qui s'appelle Mandarake, en hommage au magicien américain, Mandrake. Et donc, il a commencé à écrire ça en faisant ses planches au fur et à mesure, et il a balancé ça sur 12 ans. C'est un bouquin qui a eu de nombreux prix, genre un Eisner Award, genre un prix Tezuka, et qui est aussi représenté au Festival d'Angoulême dans la sélection classique, donc pour ce prochain festival. Il faut aussi noter que Tsutsumi a déjà eu un prix à Angoulême. Il a eu un prix spécial en 2005 pour l'ensemble de son œuvre. Il a été traduit en France dans d'autres bouquins, notamment dans la revue Le Cri qui tue, qui est une revue des années 70, qui était une revue super novatrice, qui a essayé de publier du manga. Et donc, dans leur truc, il y avait du Tsutsumi, il y avait du Tezuka et divers autres auteurs. Série qui n'a pas du tout marché, parce qu'apparemment, c'était des Suisses qui avaient lancé ça, et le problème, c'est que quand il y a eu un changement économique entre la Suisse et la France, l'export vers la France coûtait trop cher et ils n'arrivaient plus à en produire assez pour poursuivre le truc. Enfin, en gros, on est vraiment dans les prémices du manga. C'est-à-dire, moi, une époque au niveau du manga que je connaissais très très peu, j'en ai entendu parler en cherchant à gauche à droite, quoi. Vraiment une revue qui avait l'air assez intéressante et qui a amené les premières BD de Tezuka en France, dans les années 70 déjà. On aurait pu croire que les débuts du manga c'était les années 90. Je pense qu'en fait on a eu le boom du manga dans les années 90. Mais déjà il y avait des précurseurs qui essayaient de le faire connaître en France. Enfin, aux francophones. Donc sélection officielle d'Angoulême. Il faut savoir qu'il y a aussi un film qui s'appelle Tsutsumi, qui est en cours, un film d'animation qui a été sélectionné à Cannes dans la sélection Un certain regard. Film qui, j'avoue, les quelques images que j'ai vues m'effraient un peu. L'animation a l'air un petit peu pérave. C'est très saccadé, ça manque de fluidité. Enfin, j'ai pas retrouvé la fluidité que moi j'ai ressenti en lisant cette bande dessinée. Mais en tout cas, ça va être un film qui va aussi intégrer des histoires de Tsutsumi dedans. C'est-à-dire, on va avoir des bandes dessinées mises en scène de Tsutsumi et ça, je pense que ça peut être intéressant. C'est un saga pour rien qui a fait l'adaptation. Ça devrait sortir, je crois, en février en France. Dans 3 salles.
Ouais, à peu près.
À peu près, je pense.
Dans 3 à Paris.
Au niveau de l'édition, c'est une édition magnifique qu'a sortie Cornelius. Donc, c'est cher. C'est des gros bouquins à 33 euros, là.
Ouais, mais bon, t'as 420, enfin plus de 400 pages. Quoi.
Plus de 400 pages, un très beau papier, des tramages superbes. C'est cartonné. La couverture peut se déplier pour faire un superbe poster derrière. Il y a deux marque-pages qui permettent d'avoir des notes. Il y a un travail éditorial superbe, je veux dire, avec plein de notices. C'est le genre de BD qui se relit plusieurs fois, je pense. Pourquoi ? Parce que la première fois, on s'intéresse à l'histoire et on retient pas les noms. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal avec tous les noms japonais, je mélange tout. Enfin, ouais. C'est un très, très, très bel ouvrage, un très, très beau travail. Et en plus, j'ai cru comprendre que Cornelius avait fait un effort sur le prix. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont dû réduire leur marge pour réussir à le publier. D'ailleurs, ils s'amusent à annoncer derrière qu'il y a deux jolis marque-pages et que ça serait bien de les utiliser parce que ça coûte cher à faire.
Ok.
Donc, moi, j'ai trouvé ça très très bien. Ça vaut le coup. Ça fait un beau cadeau. Quelque chose de très agréable à lire. Je suis très très fan. Un très très beau témoignage de l'histoire du Japon. Qu'y a-t-il, mon cher Thio ? Tu es circonspect face au livre.
Ah non, ça y est. Non, c'est parce qu'en fait, j'avais levé la couverture et j'étais en train de regarder donc, le poster dedans. Et là, j'étais en train de me poser dubitativement la question de comment est-ce que je le remets.
D'accord. Tu viens de trouver ?
Je viens de trouver.
En fait, non, c'était juste glissé. C'était pas glissé comme ça, mais bon, c'est pas grave.
Si ?
Ah ouais, c'était comme ça ?
Si, c'était comme ça. Parce qu'en fait, sinon, tu le déchires. Enfin, moi, si je le déchire, mais... Non, parce qu'il faut que ça tienne.
Ah, bon. Franchement, c'est très visuel ce qu'on est en train de raconter. Ok, à toi, qu'en as-tu un peu pensé de cet ouvrage ?
J'ai trouvé ça passionnant parce que du coup on se retrouve, bon je l'avais déjà dit sur le tome 1, mais c'est toute l'histoire du manga au Japon qu'on est en train de lire et c'est quelque chose qu'on connaissait pas quoi. C'est toute une période de l'histoire qui, enfin, nous en tant qu'Européens, est un peu... Non, en fait, non, tu avais raison.
Donc, nous, ce qu'on sait de l'histoire du Japon, c'est ils ont eu la guerre, ils se sont fait défoncer la gueule.
Ils ont vécu sous la domination américaine pendant des années.
Et puis, un jour, ils ont commencé à fabriquer des puces électroniques et ils sont devenus riches. Et voilà. Voilà notre résumé de l'histoire japonaise. En fait, c'était très simpliste ce qu'on savait de cette histoire. Hein.
Oui, mais c'est parce que, on a jamais su plus que ça de l'histoire japonaise, quoi.
Ouais, et puis là, en plus, il y a un côté culturel qui est...
Ouais, mais là, surtout, c'est que tu vois, en fait, toute la création de la société japonaise. Alors, je sais que je suis pas un super grand connaisseur d'elle, mais tu comprends aussi certaines choses par rapport à comment ils sont aujourd'hui, quoi. Le souhait, par exemple, de devenir indépendant, de ne plus être sous la domination d'un autre pays, devenir une grande nation, enfin... C'est vrai que bon, y a beaucoup de choses qui se sont construites justement après la Deuxième Guerre mondiale, quoi. Et tout ce côté historique et création des mangas, c'est passionnant. Après voilà, c'est sûr qu'il parle beaucoup de beaucoup d'auteurs que je connaissais pas. Et ensuite, toi, quand tu m'as dit les titres que ces auteurs ont fait, tu fais mais en fait si, je les connais.
Oui, parce que beaucoup de ses collègues en fait sont aussi des grands du manga. Alors moi je connaissais pareil très peu, j'ai un gros problème avec les prénoms japonais, je veux dire à part Otomo et Toriyama, j'ai du mal à les retenir, et quelques autres, mais c'est vrai que voilà, je me suis renseigné un peu sur les gens qui étaient dans le mouvement Gekiga. Donc bah, dans l'atelier de Tatsumi, putain, avec ces deux noms qui mélangent à chaque fois je me plante, Tatsumi. Voilà. Il y avait l'auteur, un des auteurs de Crying Freeman, qui est quand même quelque chose d'assez connu maintenant, vu qu'il y a eu un film en plus.
Encore une belle ultra violente.
Voilà. Ouais. Et il y a eu aussi l'auteur de Golgo 13. Golgo 13, qui est l'histoire d'un tueur à gages, très inspiré de James Bond, rien à voir avec les Golgoth.
De Goldorak, non ?
Très inspiré de James Bond, etc. Donc un truc super violent, qui est une BD qui continue. Ça ne s'est pas arrêté.
C'est toujours le même dessinateur.
Je ne sais pas si ça a continué avec le même dessinateur. Il a peut-être un studio maintenant japonaise. Mais c'était vraiment une ambiance très différente. Et en plus, on voit aussi que on n'est pas du tout dans la conception de la BD. On est vraiment plus dans, à l'époque, en studio tel quel. C'est-à-dire que maintenant, le studio à la japonaise, c'est il va y avoir le gars qui va faire les trames, le gars qui va faire les décors, le gars qui va faire les personnages. Là, c'est vraiment chacun fait sa BD en entier. Il galère pour produire le nombre de planches qu'il doit faire.
Il doit faire aussi des couvertures. Ils doivent.
Voilà, Tatsumi devient éditeur à un moment, ils se font un peu exploiter un peu par les éditeurs, enfin rédacteur en chef, il devient Tatsumi, ils se font un peu exploiter par les éditeurs qui essayent de survivre comme ils peuvent. Ils ont aussi cette sorte de respect du « Oh là là, le mec m'a foutu dans la merde financièrement, mais c'est lui qui m'a lancé, je ne peux pas le trahir ». C'est cet honneur très très asiatique, je pense qu'un Européen aurait depuis longtemps envoyé chier la plupart des éditeurs avec qui travaillait Tatsumi pour aller chercher des thunes ailleurs.
Oui.
Voilà, ça aurait été beaucoup plus violent. On suit aussi l'arrivée à la maturité de Tatsumi. C'est-à-dire que on le voit grandir. Dans le deuxième tome, il atteint la majorité. Hein, c'est là où il devient adulte. On a ses premiers émois sexuels qui sont assez rigolos. Enfin. Achetez-le, quoi, lisez-le, merde. C'est de la bombe de balle, quoi.
Le problème, c'est que vous ne l'aurez pas en bibliothèque de prêt, donc il faudra l'acheter.
Ouais, ou bien alors faire chier votre bibliothécaire pour qu'il l'ait, quoi, parce que ça, c'est un monument.
Je pense pas qu'ils achètent ça en bibliothèque, quand même. Hein.
Ah, mais ça, c'est un monument que tu fais dire. Je veux dire, même Télérama l'a super bien critiqué, les Inrock, etc. Ça, c'est un truc. Je veux dire, tu montes la chronique de Télérama, et ils te le mettent à côté du dernier Welbeck, tu vois.
Ouais. Donc voilà, une vie dans les marges. C'est la fin de l'histoire et honnêtement, la petite fin avec l'hommage à Tezuka vous.
Petite larme.
Ouais,
et ouais. Un travail éditorial avec une recherche, une notice bibliographique, des informations sur les auteurs qui sont présentés et dont vous allez mélanger tous les noms.
Normal.
Online! L'auteur Yop nous fait des superbes mash-ups sur son site Moulozone. Moulozone. Des mash-ups de bande dessinée. Alors,
qu'est-ce qu'un mash-up ?
Un mash-up, c'est un mélange de deux trucs qui n'ont rien à voir.
Ouais, ça je connais parce que moi en fait, c'est dans. Mon dieu. Dans la série Glee, ils font des mash-ups.
Putain, mais tes références de gonzesse, quoi. Alors moi, j'aime bien Twilight et Glee, ils font des mash-ups.
Ouais, mais attends, Glee, franchement, t'aimes bien la musique. Glee, ils font des bons trucs.
Je crache dessus gratuitement parce que c'est facile. Je n'ai vu aucun épisode. Je suis curieux. Mais bon, revenons sur les mash-ups. C'est un mélange. Alors, musicalement, c'est connu. C'est genre, tu vas te faire un Queen versus Didier Super, donc un mélange des deux. Tiens, personne ne l'a fait ça encore, mais ça pourrait être rigolo.
On voit l'idée à Didier Super, il va le faire.
Voilà. Ça serait une reprise, pas un mash-up. Donc, ce sont des mix, des mélanges. Et là, le mec s'est dit « Hey, je vais faire des mash-up de bande dessinée, le Yop ». Et il a commencé en se faisant un super mash-up de Naruto et Astérix. Et donc, on a Astérix avec le style graphique de Naruto et la narration de Naruto. Et on regarde ça et on fait « Waouh, ça marche trop bien !» Le mec, il s'est vachement gavé à essayer de respecter tous les codes, mais des deux genres. C'est assez impressionnant, c'est-à-dire que quand ils arrivent face aux Romains, tu as les Romains qui font « Formation de la tortue !» Tu as les codes de Naruto et les codes d'Astérix, qui sont vachement bien mélangés. Donc ça a beaucoup fait parler, hein, parce que franchement, c'était génial. Il a enchaîné sur l'affaire Magneto, un mash-up de Tintin et les X-Men. Donc c'est les X-Men dessinés la façon d'Hergé. Et c'est super.
Mais c'est des histoires complètes ou c'est...
Ouais, c'est des petites histoires complètes, c'est court, c'est des petites histoires complètes, ça marche super bien. Et son dernier s'appelle Schtroumpf City. Donc les Schtroumpfs version Frank Miller. Voilà.
Mais la question, c'est que ça, c'est que sur Internet.
Oui, c'est sur Internet.
Parce que au niveau si tu fais une parution là-dessus, juste au niveau des droits,
je n'ose même pas imaginer. On est dans la parodie. On est très permissif sur la parodie en France.
Ouais.
Mais je trouve ça, même si Moulinsart est pas très permissif sur la parodie, mais eux, ils sont un peu à part dans le monde de ce qu'on a le droit de faire avec leurs œuvres. C'est-à-dire que si ça avait été Tintin dessiné façon X-Men, je pense que ça ne serait pas passé. Mais les X-Men dessinés façon Tintin, je pense que ça passe mieux. Quoi qu'il en soit, c'est très bien fait. Yop arrive à adopter les styles des auteurs en question, ce qui n'est pas évident du tout. Les mash-ups fonctionnent à tous les coups. Par exemple, la Schtroumpfette est blonde dans le Schtroumpf City, tu vois, donc c'est du noir et blanc avec du blond pour la Schtroumpfette. C'est hallucinant. Il y a un making-of qu'il a mis sur le site d'Atelier Bis, justement de Schtroumpf City, où il explique comment est-ce qu'il s'y prend, où il montre un peu toutes ses méthodes. Je vous encourage à aller voir ça, c'est surprenant, c'est très bien foutu. J'ai hâte d'avoir le suivant, je ne sais pas ce qu'il pourrait nous faire. En tout cas, la surprise est toujours présente. Et surtout, bah, moi, j'applaudis des quatre mains, tellement c'est génial.
Il y a combien d'histoires, là, à peu près ?
Pour moi, il n'y en a que trois. Il n'y a que ces trois-là. Je pense que ça doit être un gros boulot, parce que le mec, vraiment, rentre dans le style d'un autre auteur, récupère tous les codes. Il y a un travail d'analyse, je pense, derrière, plus ou moins conscient. Je veux dire, je ne pense pas qu'il prend peut-être pas forcément des notes, mais il faut vraiment... Enfin, ça doit pas être facile. Bah, tu liras les X-Men tout à l'heure, tu verras, c'était l'affaire Magneto. C'est assez grandiose.
Et bien voilà, nous allons nous quitter. On va peut-être quand même vous dire une chose pour cette première émission de la nouvelle année 2012.
Oui.
Bonne année !
Ah ouais, bonne année. Ouais, moi je l'aurais déjà dit parce que j'ai fait une émission avec Sacha Guer, tu sais, qui est sorti le 1er janvier.
Ah ouais, mais sauf que moi j'étais pas là. Voilà, ouais, moi je vous dis bonne année.
Non, mais quand je reçois des gens intéressants, je te fais pas venir.
Bonne lecture à vous.
Voilà.
Plein de bonnes
choses. N'oubliez pas que vous pouvez voter pour les OC Awards jusqu'à la fin du mois.
Ouais, continuez à faire des commentaires sur iTunes.
Voilà, qu'il y a le concours de
Twitter, il y a le concours de la fille de l'eau.
Voilà, vous pouvez gagner des parts avec MCBD. Et
voilà, et
la
si,
BD.
Et si vous avez des problèmes pour trouver les réponses, vous pouvez les trouver sur BDGest.
Ouais, apparemment, dans les forums, ils ont commencé. Franchement, cette bande de tricheurs. Hein.
Mais ils ont raison.
Quoi qu'il en soit, le concours est vachement plus facile que le précédent. Moins rigolo, mais plus facile. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, Google+. N'hésitez pas à nous laisser des concours iTunes, parce que franchement...
Des commentaires.
Des
concours iTunes, ça marche pas.
Des concours-commentaires iTunes.
Des concours-commentaires.
iTunes, hey. Parce que franchement, on n'en a pas beaucoup, en fait. Il y en a eu quelques nouveaux super sympathiques. Il y a eu pas mal de coms aussi, très sympathiques, je tenais à le dire. Je ne les ai pas imprimés, donc je ne les lirai pas aujourd'hui. Je ferai ça une autre fois. Merci à vous de nous suivre, merci de votre fidélité et on se retrouve dans 15 jours pour une émission exceptionnelle où nous aurons notre nouveau chroniqueur.
On est donc désormais à deux chroniqueurs en plus.
Ouais.
Tu es bientôt le Laurent Ruquier de la bande dessinée, disons.
Et oui, et toi tu es le Stevie de la bande dessinée. Au revoir, à bientôt, ciao.
Au revoir, je crois pas que je revienne la semaine prochaine.